Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour, bonjour. Un épisode bonus en ce 16 janvier 2023. Alors, un épisode qui va parler de la sexualité en postpartum, mais surtout un regard croisé entre deux professionnels de la santé, Anna Roy. Peut-être que vous la connaissez, elle n'est pas inconnue au bataillon. Anna Roy, elle est sage-femme, elle a écrit de nombreux livres, elle milite pour beaucoup de choses et elle fait du bien à de nombreuses personnes. Un regard croisé entre elle et moi. Il faut savoir que la marque Mustela, qui est une marque française depuis 1950 qu'on retrouve un peu de partout chez soi si on a des enfants, a ouvert une maison des parents en novembre 2022 à Paris, une maison éphémère, où les parents peuvent se retrouver pour plein d'activités. Et dans une de ces activités, c'était justement une conférence sur la sexualité en postpartum. Et donc pour répondre à cette thématique, ils ont invité Anna Roy. Et Anna Roy a dit, moi je veux inviter Camille Bataillon, qui a écrit un super livre là-dessus, qui s'appelle « Réinventer sa vie intime après bébé ». Donc si vous me connaissez, vous connaissez déjà l'existence de ce livre. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un livre qui est sorti en juin 2021, « Réinventer sa vie intime après bébé », où il y a des chapitres qui expliquent grossesse et sexualité, puis surtout le postpartum, quels sont les bouleversements corporels, psychiques et relationnels, comment on peut retrouver sa vie intime déjà pour soi, en solo, et ensuite quels peuvent être les conseils, les outils pour les appliquer dans sa vie intime à deux. Et donc j'ai eu l'extrême honneur de faire cette conférence avec Anna Roy. Je suis fan d'elle et donc quand elle m'a dit qu'elle appréciait mon travail, ça m'a vraiment touchée. Et je remercie aussi Mustela pour leur confiance, pour cette collaboration du coup, tous et toutes ensemble. Je laisse place maintenant à cet épisode qui a eu lieu en soirée avec du public et je vous laisse donc place à ce live.
Un super regard croisé aujourd'hui qui est hyper intéressant sur la sexualité pendant le postpartum avec Anna Roy qui est sage-femme et qui a écrit beaucoup d'ouvrages, de livres et voilà, qui racontera après aussi, elle a beaucoup de vie. Et Camille Bataillon qui est sexologue et je pense que ça va être vraiment très intéressant ce soir et c'est un sujet qu'on aborde peu souvent finalement et qu'on trouvait intéressant de traiter. Donc je cède la parole maintenant à Anna Roy et Camille. Merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bah, du coup, un peu pour le déroulé de cette présentation ce soir, du coup, on va se présenter brièvement. On va rebondir un peu sur pourquoi cette thématique. Mais surtout, ça va être un échange entre nous deux, mais aussi un échange avec vous. Donc on espère que vous rebondirez aussi, soit pour partager des expériences que vous avez entendues ou des questions, parce qu'on est là aussi pour y répondre. Anna, est-ce que tu veux te présenter d'abord ?
Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme, libérale à Paris. J'ai démissionné l'année dernière de mon poste à l'hôpital. Et j'ai toujours écrit plein de livres et je suis chroniqueuse dans une émission qui s'appelle La Maison des Maternelles. Et puis je fais plein d'autres choses aussi, mais c'est, voilà, ça c'est l'essentiel de mes activités.
Et donc moi c'est Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne, je suis en postpartum parce que j'ai une petite de 6 mois et je suis bien contente d'avoir écrit un livre sur réinventer sa vie intime après bébé parce que ça m'est bien utile en postpartum. Et donc j'accompagne des personnes qui s'interrogent, qui ont des questions intimes et qui souhaitent être accompagnées vers un mieux-être, bien-être sexuel, seule ou en couple. Alors Anna, c'est toi qui m'as fait venir ce soir. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'on a deux regards qui sont ultra complémentaires. C'est vrai que la sage-femme est un super interlocuteur pour parler de ses problèmes sexuels, et d'ailleurs c'est ce que vous faites. Hein. Ça peut vous paraître bizarre, là, vous qui nous écoutez, mais en fait, une sage-femme, elle passe, je dirais, une consultation sur trois, on parle de sexualité, que ce soit la sexualité pendant la grossesse, après l'accouchement, ou la sexualité tout court quand c'est en consultation gynéco, donc ça fait vraiment partie de ma vie. Mais je trouve que le regard avec un sexologue est complètement complémentaire, parce qu'elle voit pas... Moi, je vois le tout venant. Camille ne voit que, presque, enfin peut-être tu vas me dire non, des gens qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'être accompagnés à un moment de leur vie, pas forcément des difficultés, mais qui, voilà.
Oui, ça peut être souvent on vient pousser la porte d'un ou d'une sexologue quand il y a des difficultés, mais je fais de la prévention en disant qu'il ne faut pas forcément attendre des difficultés. Dès qu'il y a des questions intimes et ou relationnel, c'est le bon moment pour venir. Et effectivement, les gens qui poussent la porte d'un ou d'une sexologue, ça demande déjà beaucoup de courage. Et donc, bien sûr, on n'a pas tout venant et c'est bien dommage. Mais du coup, c'est pour ça que je viens aussi ce soir pour donner de l'information et puis peut-être aider des personnes qui se posent des questions, qui n'osaient pas consulter, à venir pousser la porte.
Et puis Camille, elle n'ose pas le dire, mais en fait, elle est spécialiste du slow sex, que je ne connaissais pas moi-même très bien, donc elle m'ouvre déjà à moi-même plein de portes. Vous allez voir, c'est assez intéressant, et elle ouvre des perspectives qui sont intéressantes.
Oui, on a eu des bonnes discussions en off, et du coup, on s'est dit qu'on allait rebondir aussi comme ça, via des questions...
Et surtout, interrompez-nous autant que vous voulez, c'est-à-dire que vous me posez autant de questions que vous voulez. Ouais. C'est surtout ça qui est intéressant.
Ça,
ouais, n'hésitez vraiment pas.
Anna, déjà, c'est vrai qu'on pense sexualité postpartum, il y a souvent ce marqueur des 6 semaines. C'est à partir de 6 semaines en postpartum où là, le médecin, c'est ça, va dire feu vert ou pour de la sexualité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce marqueur ?
Alors moi, en tant que sage-femme, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Ces 6 semaines, c'est complètement bullshit. Hein. Il faut oublier ça de sa tête. Ça dépend pour qui. Ça peut être le lendemain de l'accouchement. Il y a des gens en maternité, on ouvre la porte et on fait « Ah, je vais refermer la porte ». Donc ça arrive, vous voyez, il y a des gens qui ont une vie sexuelle très intense, qui reprennent dès, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois, hein, c'est pas une blague, et puis il y a des gens qui vont reprendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et même jamais, peut-être parfois, de certains. Donc cette limite des 6 semaines, c'est une limite qui correspond aux critères physiologiques, et je crois qu'il ne faut pas vous arrêter à ça. Enfin, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Oui, bien sûr, s'il y a des fils, moi j'aime pas trop que vous ayez des relations sexuelles avec pénétration quand il y a des fils. Mais en vrai, la science ne dit pas que c'est interdit, mais c'est vrai que ça peut un peu trop étirer les fils. Il y a un risque de surinfection et tout ça, mais en fait, vous faites ce que vous voulez en vrai.
Quand on parle de ce marqueur 6 semaines,
voilà,
c'est surtout
à cause de ça.
Quand on pense sexualité avec pénétration.
Voilà.
Alors qu'on sait que la sexualité sans pénétration est de la sexualité aussi. Ce n'est pas que des préliminaires.
Tout à fait. Non, mais ça c'est voilà. Je te laisse rebondir.
Et donc, il y a ce marqueur des 6 semaines, on va quand même le dire, parce que, et même quand on parlait en off, où certaines personnes disent. Mon médecin me parlait des 6 semaines, c'est bon, vous pouvez prendre des rapports, voici la contraception. Et beaucoup disent, mais en fait, on parle de contraception, alors que je suis à mille lieues de penser sexualité. Je ne sais pas si ça, tu l'as, toi, chez tes patientes.
Oui, alors il faut avoir en tête les chiffres. Les chiffres, c'est grosso modo un couple sur deux à 3 mois repris les rapports sexuels avec pénétration. Les Anglais, ils font la distinction entre avec et sans pénétration. Nous, en France, on ne la fait pas. Et donc, nous, on sait qu'en France, sexualité avec pénétration, c'est un couple sur deux à 3 mois. Donc, si vous êtes des champions du monde et qu'au bout de 3 semaines, vous êtes de nouveau dans la course, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Hein, on ne peut que se réjouir pour vous. Mais si vous n'êtes pas dans la course toujours un an après, ce n'est pas grave non plus, quoi. Le tout, c'est de se mettre d'accord en couple.
Oui, c'est ça. J'allais nuancer parce que aussi les études parlent d'un couple sur deux, mais à quel prix ? Parce qu'il y a la reprise des rapports, mais des fois, ce n'est pas forcément voulu non plus. Et souvent, là, bah, je vais parler pour les femmes, les personnes qui ont accouché, qui vont se dire, bah, j'ai repris parce que peut-être qu'il y avait de la pression du partenaire, parce qu'il y avait peut-être de la pression soi-même, parce que bah, je pense que comme il y a le marqueur des 6 semaines, tout le monde a déjà repris, donc je suis déjà en retard 3 mois après. Alors que comme tu l'as dit, en fait, au cours de l'année postpartum, c'est une reprise tout doucement. Et ça veut quand même dire qu'il y a quand même des couples qui vont même reprendre après cette année-là. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par reprendre une vie sexuelle ? Mais du coup, voilà, moi, je questionne ça, c'est à quel prix ?
Et il ne faut pas se dire aussi, moi, je dirais aussi que c'est aussi parfois des femmes qui ont très envie et des hommes qui n'ont pas envie. C'est-à-dire qu'on a, le schéma classique débile dans la tête qui est de se dire c'est la maman et la putain, donc en fait la meuf, une fois qu'elle a accouché, qu'elle est devenue mère, elle n'a plus envie de coucher. C'est pas du tout vrai, ça. Hein. Ça, faut se sortir ça de la tête. Je sais pas quel con a inventé ça, mais c'est vraiment une connerie. Moi, je vois aussi énormément de femmes en fait, qui ont grave envie de reprendre avec un mec qui dit mais en fait, moi, c'est pas mon moment, donc arrête, fous-moi la paix. Hein, c'est pas dans le sens cliché, forcément. Et il y a même des femmes qui sont inquiètes, elles se disent « mais je comprends pas, il a plus de désir, il m'aime plus ». En fait, pas du tout, c'est juste que le mec, il a besoin de dormir pour avoir une libido. Voilà. Ça peut être aussi bête que ça.
Oui, il y a souvent cette croyance aussi « désir égale amour ». Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de désir ? Est-ce que ça veut dire que je n'aime plus ma partenaire ? Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai des rapports sexuels pour prouver mon amour ? Donc ça aussi, c'est à déconstruire. On peut très bien aimer une personne et avoir une libido qui fluctue, et donc des fois un désir qui fluctue aussi. Donc déjà, de déconstruire ça, qu'on peut aimer une personne et que son désir ne peut ne pas être là à ce moment-là, c'est déjà important. Et puis oui, tu dis, il y a des hommes, effectivement, pour qui, en fait, en postpartum, bah, le désir, il s'est en allé. Et donc là, c'est intéressant d'avoir une conversation, en fait, parce qu'il y a cette croyance en se disant, bah, ça y est, il ne me trouve plus désirante. Mon corps, il a changé. Ça y est, il ne me trouve plus attirante. Et des fois, en fait, de poser ces questions-là, et je sais que pour beaucoup de couples, c'est dur d'avoir des conversations honnêtes et des conversations autour de la sexualité, mais des fois, en fait, ça permet d'avoir des réponses, en fait, finalement, et des fois de se dire, ah ben non, mais en fait, bien sûr que je te trouve toujours attirante, mais moi, là, j'étais focus sur bébé, et finalement, la sexualité, j'y pensais pas, ou alors, ben, j'ai pas envie de te faire mal. J'ai peur de te faire mal, j'ai peur que ça fasse mal, donc je préférais attendre que tu reviennes vers moi. Et comme tu faisais pas le pas, parce que pour beaucoup de femmes aussi, c'est difficile de faire le pas vers la sexualité. Il peut y avoir aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour les hommes ? Il peut y avoir en fait plein de choses, des fois aussi des traumatismes de ce qui s'est passé pendant l'accouchement, parce que souvent, bah, on va se concentrer aussi sur la personne qui a accouché, mais la personne qui est aussi dans la salle d'accouchement peut voir, peut entendre des choses et a besoin des fois de déposer ça.
Ça, je crois que c'est vraiment important de dire aux coparents, enfin, à vos amoureux, vos amoureuses, qui se sentent libres d'exprimer ce qu'ils ont vécu en salle d'accouchement. Parce qu'il y en a qui ressortent vraiment traumatisés de l'accouchement et qui n'osent pas le dire parce que bah, je ne vais pas me la ramener alors qu'en fait, ma femme, elle a accouché, quoi. Et ça, vraiment, ça fait vraiment des troubles dans la sexualité. Moi, je le vois tous les jours. Des types qui ont vu des trucs qu'en fait, ils n'avaient pas du tout envie de voir. Et qui sont en état de stress post-traumatique, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment important qu'ils aient l'espace, que vous leur laissiez cet espace. Je sais, c'est pas facile, parce que vous en avez chié, etc., je comprends. Mais en même temps, c'est pas parce que vous en avez chié que l'autre, il en a pas chié aussi, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important de laisser aux hommes et aux femmes, la possibilité de s'exprimer sur ce truc. Ça, c'est vraiment important. Même si vous êtes concentré sur votre ressenti, il faut arriver à se pencher sur le ressenti de l'autre, quoi.
Et alors, quels peuvent être les facteurs en postpartum qui fait que ça joue sur la libido ? Est-ce que toi, tu as des idées ?
Oui. Moi, je trouve. Alors, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins. Il y a la question de la fatigue. Moi, je pense qu'on ne prend pas en compte ça chez les jeunes parents, à quel point la fatigue. Il y a un grand professeur de médecine qui dit le manque de sommeil tue. Moi, j'aime beaucoup qu'on dise ça parce que c'est vrai. Et ça altère tout. Ça altère les fonctions cognitives, ça altère les fonctions de mémorisation, ça altère la façon dont on prend ou on perd du poids. Ça nique tout le système, tout le corps de manquer de sommeil. Et s'il y a un premier truc que ça fait sauter, c'est la libido. Et moi, il y a des gens qui me disent « Mais Anna, nous, on n'a plus de libido, on n'a plus envie de coucher ensemble. » Je les envoie à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est vraiment mon endroit où j'envoie tous les couples parisiens pour passer le week-end. Ils vont à Fontainebleau. Ils me disent « Putain, mais Anna, c'était le paradis. » Sans l'enfant, bien sûr. « Ah, mais Anna, c'était le paradis. Putain, c'était une sexualité mais débridée, extraordinaire. » Bon, voilà. Donc, en fait, juste parce qu'ils avaient dormi toute la nuit, quoi. Point. Donc des fois, ça, le sommeil, je pense que ça impacte. La question de l'espace aussi, il y a des gens qui ont des petits espaces, en particulier dans les grandes métropoles, et qui du coup sont intimidés par la présence de l'enfant ou de sa proximité immédiate. Il y a le fait que la sexualité est bornée dans le temps, vraiment bornée dans le temps. Moi, je sais, et que mes patientes, elles disent, voilà, il va falloir faire l'amour en 18 minutes avant qu'il se réveille. C'est pas très romantique, quoi, comme vision des choses.
Ou il y a la peur qu'il se réveille.
Voilà, c'est ça, d'être là. Voilà. Il y a la question de la douleur. Il y a mille questions, enfin, qui sont des freins.
On reviendra sur la douleur. Mais un des indicateurs presque les plus importants et qu'on oublie, c'est comment était la sexualité avant la grossesse. Donc il y a tous ces facteurs-là, mais un des plus importants, c'est comment était la sexualité avant grossesse. Et on a tendance, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on se dit, j'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur que ma vie sexuelle soit foutue. En fait, ça vient juste amplifier des choses de votre sexualité, mais qui étaient présentes déjà avant et qui, des fois, on n'en avait peut-être pas conscience. Mais on le voit en séance, en tout cas, moi, je le vois en séance, des personnes qui viennent et qui disent, j'ai plus de libido depuis que j'ai accouché, ou j'ai des douleurs depuis que j'ai accouché. Alors ça peut arriver dans une minorité de fois où c'est effectivement lié à un accouchement, lié au postpartum et à tout ce que tu as dit, la fatigue, l'état de la relation, le soutien, le stress, la dépression, etc. Mais souvent, quand on vient creuser, il y avait déjà des petits éléments avant, par rapport à l'état de la relation déjà aussi. Ou alors s'il y avait des douleurs à la pénétration, s'il y en avait déjà des fois un petit peu par-ci par-là, et en postpartum, ça va être amplifié. Ou alors que la libido, c'était déjà pas très excitant ce qu'il y avait au menu. Ça me donne encore moins envie en postpartum parce qu'il y a encore tout ce tas qui s'ajoute. Et c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention et de l'information là-dessus et d'avoir ces informations-là en grossesse ou même avant. Mais avant, on va se dire, non, ça me concerne pas. Pour savoir et pour pouvoir du coup être accompagné aussi quand justement il y a déjà des difficultés ou même quand le couple déjà on sent que c'est peut-être pas très stable de pouvoir consulter avant parce qu'après ça va juste être un amplificateur et on n'a plus le temps vraiment d'y prendre soin aussi. Les douleurs.
Ouais, alors ça c'est vraiment, ça c'est un de mes grands trucs. C'est que souvent les femmes, souvent, ça arrive, je crois que c'est un tiers ou 45%, je ne me rappelle plus du chiffre, mais enfin, après un accouchement, à 3 mois, les femmes ont mal, souvent quand elles ont des rapports sexuels. Ça, c'est un truc qui me rend cinglée, parce que vous êtes plutôt confiante et sympa, et vous allez confier à votre gynéco, à votre sage-femme, je suis désolée, j'ai mal, j'ai mal quand je fais l'amour. Et puis là, on vous dit, oui, mais c'est normal, vous venez d'accoucher. Et puis, vous êtes devenue mère aussi, hein, vous savez, dans la tête. Ça, si quelqu'un vous dit ça... Vous dites ah oui, et vous allez vite trouver une autre sage-femme ou un autre médecin. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui répond ça à 3 mois, c'est presque criminel. Moi, je reçois des patientes là, elles n'ont pas fait l'amour pendant 3 ans parce qu'elles avaient mal et qu'on leur disait que c'était dans la tête et que c'était normal. Non, c'est pas normal d'avoir mal quand on fait l'amour. On fait pas l'amour pour avoir mal, sauf dans certaines pratiques, mais bon, on s'est compris. Et donc, vraiment, si ça vous fait mal alors que ça vous est pas mal avant, il faut qu'on trouve la solution. Et la solution de la tête est une solution qui arrive tout en dernier. Avant, moi, j'ai plein de portes à fermer, d'infections, de cicatrices qui ont mal cicatrisé. J'ai 10 milliards de trucs à voir avant de pouvoir dire peut-être qu'il y a un blocage psychologique. Ça m'arrive jamais quasiment. Le blocage psychologique, c'est hyper rare en vrai. Tout le reste, c'est des trucs très défaisables. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un kinésithérapeute? Est-ce que c'est un chirurgien? Je trouve toujours quelqu'un qui va régler le problème et je n'ai aucune de mes patientes qui ne trouve pas une solution à ces problèmes de douleur périnéale. J'attire votre attention, il y a une association de sages-femmes magnifique qui s'appelle Périnée Bien Aimée. Elles ont un site internet. Et là, vous avez des sages-femmes qui sont référencées et spécialisées dans les douleurs vulvaires et périnéales. C'est des meufs qui font un travail extraordinaire, vraiment exceptionnel. Voilà.
Et on vous dit, ce n'est pas pour faire peur, c'est se dire que ça peut arriver. Et qu'il y a des solutions. Donc c'est ça, en fait. En fait, ce qui nous rend dingue, c'est d'entendre des femmes qui souffrent et qui souffrent et qui souffrent pendant des années et des années, alors qu'il y a des solutions et qu'elles n'auraient pas dû souffrir pendant des années. Et là encore, ça peut être des douleurs qui peuvent apparaître pour la première fois ou qui peuvent être en fait chroniques, mais ça se soigne. Et ça se soigne quand il y a une équipe, parce que c'est jamais juste en voyant juste une sage-femme ou juste une sexologue ou juste un kiné que ça se règle. Des fois, c'est en fait en complément de plusieurs professionnels. Donc, par exemple, kiné, sage-femme, pour tout ce qui est manuel, sexologue, pour tout ce qui est un peu psychosexo, ce qu'on va dire, des outils, mais il y a plein de choses qui peuvent être des solutions qui existent vis-à-vis de la douleur, et même des fois de revoir du coup les pratiques, et du coup de se dire, est-ce qu'on peut envisager la sexualité autrement que par la pénétration, tant qu'il y a des douleurs, ou en tout cas accompagnée d'une manière différente, en revoyant la manière dont vous faites l'amour. Et ça, pour ça, ça demande au couple aussi une certaine ouverture d'esprit et de communication. On revient toujours un petit peu au nerf de la guerre, mais par rapport aux dyspareuniques, donc aux douleurs à la pénétration, ça, pareil, comme tu disais, 3 mois postpartum, ça dépend des chiffres et des études, mais entre 20 à 60%. Et là encore, ça questionne, c'est est-ce que déjà dans ces douleurs, est-ce que c'était des rapports qui étaient voulus ou pas ? Parce qu'il y aurait sûrement une différence aussi. Est-ce qu'on s'est senti que voilà, il fallait reprendre vite fait, j'étais quand même inquiète, j'étais pas rassurée, et puis ma partenaire me pressurisait, donc je suis retournée vers la sexualité, et puis il y a eu des douleurs. Ou est-ce que c'était désiré, et là c'était des douleurs dans d'autres cas qui peuvent être peut-être aussi plus physiques.
Et j'attire juste un truc, comme ça vous l'aurez en tête, c'est sur la sécheresse vaginale en postpartum, il y a 2 choses auxquelles il faut penser, parce qu'on se dit, putain, c'est bizarre, j'ai plus de désir et tout. Il y a quand même les pilules que nous prescrivons, nous, les sages-femmes et les médecins. On a peut-être d'ailleurs tort de ne pas prévenir les patientes. Je pense qu'on a tort, on devrait prévenir, mais il y en a une en particulier qui fait une sécheresse vaginale chez beaucoup de patientes. Et en fait, il faut les prévenir, qu'elles le sachent. On utilise un lubrifiant, basta. Mais qu'elles ne se disent pas, oh là là, j'ai plus de désir, ça y est, je suis devenue mère, et ça part, et ça va très loin, et je l'aime plus, et blabla, et blabla. Et la deuxième chose qui peut faire une sécheresse vaginale, ça peut être l'allaitement, ça dépend des femmes, mais ça peut arriver. Et pareil, il faut le savoir. Et donc, c'est normal, et on utilise un lubrifiant. Par contre, si on ne lubrifie pas alors qu'on n'a pas de désir, ça, c'est autre chose. Parce qu'on n'a pas de désir, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des trucs très cons qui peuvent altérer la fonction sexuelle, la libido, comme la question de la lubrification vaginale.
Et super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, nous, en tant que sexologue, en tout cas moi, en tant que sexologue, je dis utiliser du lubrifiant tout le temps, en fait. Même quand vous masturbez avec des rapports avec une autre personne, que vous soyez enceinte en postpartum ou non, le lubrifiant, c'est la vie. Donc comme ça, vous n'allez même pas vous questionner si vous allez avoir des sécheresses, en fait. Vous utilisez du lubrifiant, c'est déjà quelque chose qui est intégré dans votre pratique. Et donc, en fait,
tu veux dire même dans la vie de tous les jours ?
Oui. Ah à bon. Tous les rapports, masturbation, vous allez voir, ça change déjà en plus les sensations.
Et sur la composition, moi je suis un peu psychopathe. Vous prenez des bons lubrifiants à base d'eau, etc., des trucs quali, quoi. Hein. Pas d'acheter dans le sex shop à Pigalle.
Oui, c'est important aussi ce qu'on met sur sa peau, parce que ça passe aussi à
c'est des muqueuses, hein, donc ça absorbe tout direct. Hein. Vous ne mettez pas n'importe quoi. Il y en a qui mettent des gels pailletés et tout, j'aime pas trop ça.
Non, ni parfumé, sans alcool, on se comprend. Et tu me disais quelque chose aussi d'intéressant. Désir égale lubrification, un peu. Enfin, non, je reprends dans ces croyances-là où que, ouais, quand on a du désir, on devrait mouiller, on devrait lubrifier. Et quand on lubrifie, ça veut dire que là, on avait envie. Non. Vous pouvez très bien en avoir envie et pas lubrifier. Ça s'appelle la non-concordance de l'excitation. C'est-à-dire que vous avez une expérience subjective qui est « j'ai du désir ». Et le corps, il répond différemment, sécheresse, par exemple. Et donc, ça, c'est important de le savoir, parce que des fois, on peut se dire, oh, ben en fait, je ne suis pas du tout excitée, je ne suis pas du tout mouillée, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'en fait, vous en aviez peut-être envie. Ou inversement, vous dites, mince, je mouille, alors ça veut dire peut-être que j'en ai envie. Ou votre partenaire se dit, t'en as bien envie, regarde comme t'es mouillée. Non, en fait, pour savoir si vous en avez envie, c'est poser la question. Mais pas forcément, le corps, des fois, n'est pas forcément en concordance avec ce qui se passe, de manière physiologique et subjective. Est-ce que déjà, jusque-là, il y a des questions, des remarques ou des choses où vous dites « Ah ouais, ça je ne savais pas » ou alors des choses où vous dites où vous avez des questions même ?
Ah oui, je trouve ça nul. Non, faut pas écouter ça. Hein.
Ouais.
Et c'est peut-être pas grave, et c'est peut-être juste parce que c'est la grossesse et que vous avez un état hormonal qui s'est modifié et que du coup vous avez un truc, c'est peut-être rien, mais c'est pas un blocage psychologique, promis, juré, craché.
Mm-hmm. Ouais, et que au moins, il puisse du coup, quand on entend douleur, que le professionnel de santé puisse dire, allez voir un ou une sexologue, allez voir quelqu'un, mais au moins une recommandation. Et par rapport aux douleurs, c'est vrai que pour la première fois, il y en a qui peuvent expérimenter ça pendant la grossesse, des fois au deuxième, à partir du deuxième, troisième trimestre. Faut dédramatiser, parce que c'est vrai que si tout de suite on se dit, ça va être tout le temps comme ça, non, pas forcément, ça peut être un état, une phase. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de s'écouter, d'écouter son corps. Donc pareil, lubrifiant, basique, tout le temps. Et qu'ensuite, ça peut être changer la position, ça peut être changer l'angle de pénétration, ça peut être changer le rythme, ça peut changer, peut-être il n'y a peut-être pas de douleur quand c'est le bassin bougé en cercle, mais peut-être qu'il y a des douleurs quand c'est des va-et-vient, ou vice-versa. Ça peut être simplement que la pénétration, on l'arrête pour ce moment-là et on fait autre chose, ce qui est très bien aussi. Donc c'est de s'écouter là ce que le corps il a besoin à ce moment-là. Des fois, c'est simplement un angle. Des fois, j'ai besoin d'un coussin. Des fois, j'ai besoin de rajouter du lubrifiant. Des fois, en fait, j'avais peut-être pas la tête à ça. Et finalement, c'est mieux d'arrêter là comme ça.
En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand on répond ça, quand on est sage-femme ou médecin, c'est en fait, en vrai, je sais pas quoi lui dire. J'ai pas de réponse. Bon, je vais lui dire ça. Oh, bah, c'est un blocage psychologique. Et puis voilà, fin de la discussion. Allez, au revoir, madame. C'est une solution de facilité, mais parce que des fois, on se retrouve un peu au pied du mur. Et puis, il y a des gens qui aiment pas dire je sais pas. Moi, j'aime bien, je m'en fous, moi. J'en ai rien à foutre, donc je dis, bah, je sais pas. Mais on va aller chercher quelqu'un qui va savoir. Mais c'est très difficile pour les sages-femmes et les médecins de dire, je ne sais pas. Ils aiment pas ça du tout.
Donc c'est vraiment adapté à la personne. Même nous sexologues, c'est pas j'ai sorti plein de propositions parce que ça va dépendre finalement de la personne elle-même à ce moment T.
Sur la place de l'enfant, ça veut dire géographiquement, enfin le fait qu'il soit proche de là où on fait l'amour, comment on gère ça? Est-ce qu'il y a une théorie
On n'est pas d'accord.
Ah oui. C'est vrai. Oui, parce que oui.
Non, commence.
Alors par rapport à la théorie, moi je vais pas, je suis pas psychologue, donc je vais pas partir sur les théories par rapport à ça. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Je pense que les théories, ça revient sur l'âge de l'enfant. Là, si on parle, nourrissons et cododo, ça revient souvent aussi quand on fait cododo, quand le bébé est dans la même pièce. Comment on fait l'amour, quoi? Bon, déjà, on peut faire l'amour autre part que dans la chambre conjugale. Spoiler alert, on peut le faire partout autre part, et on peut le faire à d'autres moments aussi. Mais là, imaginons quand c'est dans la chambre du bébé, que je sais pas, il dort et c'est la nuit, vous êtes en cododo, là ça va dépendre si vous êtes à l'aise avec ça, effectivement. Après, à partir de quel âge ça devient weird, ça je ne sais pas.
Alors en fait, c'est hyper drôle parce que les psys se battent comme des chiffonniers à ce propos. Donc il y a deux écoles, il y a une école qui dit on s'en fiche, en fait, au Moyen-Âge, on faisait l'amour devant nos enfants et ils n'étaient pas plus cinglés.
Même dans d'autres, encore actuellement dans d'autres cultures.
Et dans d'autres cultures, et c'est très bien comme ça. Et puis il y a une école qui dit non, on ne fait pas l'amour devant son enfant parce qu'il peut interpréter les bruits. En vrai, la science, elle ne sait pas. Et ceux qui vous disent qu'il y a de la science derrière, ce sont des menteurs. Il n'y a pas de science, on n'en sait rien. Alors moi, je vous propose de suivre votre sentiment. Moi, mon sentiment, par exemple, tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave, je le donne quand même.
Dis-le. Je veux savoir, Anna, ta vie intime.
Non, mais moi, par exemple, c'était une idée qui me plaisait pas. Mais je peux très bien entendre. J'ai une pote, c'est l'inverse. Qui a raison, j'en sais rien, on s'en fout à la limite. Mais moi, j'ai trouvé ça profondément dérangeant. C'est comme avec un chien ou un animal qui te regarde fixement. Il y a des gens qui s'en fichent, il y en a des gens qui sont perturbés. C'est deux écoles. Mais en tout cas, la science n'a malheureusement pas statué sur la question. Voilà, c'est une non-réponse. Bref, on vous laisse avec vos emmerdes. Allez,
on ne sait pas.
C'est pas tranché.
Non, il n'y a pas de consensus scientifique et ceux qui affirment le contraire sont des menteurs.
Il y a une deuxième question.
J'ai une deuxième question sur.
Le micro, oui. Attends, c'est ton micro, il est sans fil.
Sur la croyance selon laquelle le désir égale l'amour et sur la nécessité de déconstruire cette croyance, comment on fait? Quels sont les bons mots pour expliquer aux coparents?
Faut qu'ils viennent en séance, du coup. On fait beaucoup de ça en séance, en fait, en sexo. On fait beaucoup de déconstruction de plein de choses, de la vision de la sexualité, de la vision du ou de la partenaire. Vraiment, on déconstruit plein de mythes et ça chamboule beaucoup. Parce que, vous êtes construit sur ce script-là, on s'est construit sur cette définition-là aussi, de par les médias, ça sort pas de nulle part. Et donc, on a 30, 40 ans, qu'on entend ça depuis des décennies, ça ne va pas être comme ça, moi en le disant, que ça va changer. Mais c'est un cheminement. Et ce cheminement, c'est d'abord de se dire, est-ce que je peux être ouverte à entendre qu'il puisse avoir d'autres manières de penser à la sexualité? Est-ce que je peux réfléchir vis-à-vis de ça, et puis m'informer, et puis laisser faire le cheminement? Et c'est pour ça que c'est important aussi en séance. Et là, quand c'est des personnes qui sont en couple, et on pourra revenir à ça justement sur, par exemple, en séance, c'est déjà quand même beaucoup de femmes. Pour les hommes, c'est plus dur de faire ce pas-là. Mais donc des femmes qui viennent parce que c'est elles le problème, parce qu'elles ont moins de libido et que, alors soit c'est elles qui se disent j'y vais, c'est moi qui ai un problème, ou souvent aussi c'est mon partenaire m'a dit que c'est moi qui dois consulter parce que c'est moi qui ai un problème, parce que c'est moi qui ai moins de libido. Donc moi, je prends ce qui me semble totalement déluré, mais je vais à l'inverse et je dis, mais pourquoi en fait, ce ne serait pas la personne qui a le plus de libido qui viendrait en consultation ? Ça paraît bête, mais c'est aussi bête de venir en consultation parce qu'on pense qu'on a un problème, parce qu'on a moins de libido. Donc, personne n'a un problème en soi. Par contre, ça pose des difficultés quand, dans la relation, il y a des libidos qui sont différentes. Et spoiler alert, encore une fois, c'est dans tous les couples. Donc, c'est comment on fait quand on a des libidos et des envies différentes pour s'accorder.
Oui, et pour moi, alors, la question de désir égale amour, moi, je dis toujours qu'il faut reprendre les bases dans ces cas-là. On reprend les Grecs, on va 2000 ans en arrière. Ils nous disent un truc super, les Grecs. Ils nous disent, l'amour, c'est trois choses. C'est l'amour filial, l'amour amical et l'amour léros, la passion. Donc en fait, la passion, la truc sexuel, c'est une petite partie de l'éros. Mais donc en fait, il y a bien d'autres choses dans l'amour. Et qu'on n'ait pas de sexualité pendant un temps donné, quand quelqu'un se casse une jambe, quand quelqu'un... Moi j'ai une copine, elle a eu un accident de voiture, paf, elle avait le dos plié, elle n'a pas pu faire l'amour pendant un an. Ils s'aimaient comme des fous quand même. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment, effectivement, dissocier l'amour du désir. Mais il faut vraiment l'expliquer et se l'expliquer en couple. En fait, je t'aime grave, hein. Mais en fait, je suis désolée, j'ai pas de désir. Mais il faut juste que ce soit dit. Parce que c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser... Il y a une petite musique, là, dans le fond de notre tête. Putain, il veut pas, c'est qu'il m'aime pas, il veut pas, c'est qu'il m'aime pas. Ou moi, j'ai pas envie, donc c'est que je l'aime plus, quoi. Mais en vrai, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
Et alors, j'ajoute un truc... Là, par rapport au partenaire, s'il a du mal à entendre par rapport à désir égal amour, c'est qu'aussi pour beaucoup d'hommes, la sexualité, c'est une preuve d'amour. Et donc, s'il n'y a plus de sexualité, mince, est-ce qu'elle m'aime encore ? Mais parce qu'ils n'ont pas encore, et là, c'est des généralités, bien sûr, ça dépend des personnes, mais ils n'ont pas encore découvert qu'il y a d'autres manières aussi de se sentir aimé. Et donc, on revient sur les langages aussi de l'amour. Et donc ça aussi, c'est pour ça que je disais, il faut qu'ils viennent en séance, parce que c'est tout un cheminement et un travail pour venir explorer d'autres manières de se sentir aimé. Et ça ne passe pas que par la sexualité, parce que si on se base que sur la sexualité, alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a plus ? Mais c'est comme tout, en fait, c'est la rigidité dans le couple qui va créer des soucis. Et donc, en séance, on va apprendre à apporter plus de flexibilité.
Non, puis qu'il y a un phénomène aussi qui est un peu moderne, c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment baiser ensemble, donc ils ont un enfant. Malheureusement, ça suffit pas. Donc, c'est affreux ce que je dis, je sais pas pourquoi je dis ça. Le truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai beaucoup de couples comme ça, moi, que je suis.
L'amour ne suffit plomb. Pas.
Voilà. Non, le fait d'avoir envie de faire l'amour ne suffit pas, quoi. Voilà. Et donc, on se retrouve après, bah, quand la sexualité baisse, bah, en fait, il n'y a plus rien, parce que tout ce qu'on aimait faire, c'était faire l'amour, juste.
Et le postpartum, c'est aussi un chouette tremplin. Le postpartum, c'est un chouette tremplin justement pour repenser la manière de faire l'amour, pour repenser la vision de l'amour. Et ces questions-là, en fait, elles devraient se poser dès le début de la relation de couple. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour tous les couples, mais ce n'est pas encore la majorité. Et donc, des fois, c'est en postpartum, quand justement il y a une crise, que les gens viennent consulter. Et alors là, on peut mettre des choses en place. Et c'est très positif, tout ce qu'on vous dit ce soir.
Oui, c'est très positif, parce qu'en vrai, ce qu'on pense, c'est qu'on descend bas et on se dit on ne remontera jamais. Et en fait, on peut remonter plus haut que ce qu'on était, même au début de sa relation. Et ça, je vous promets que c'est vrai, genre. Oui. Vraiment, c'est vrai.
Oui, quand on pense que ça y est, en fait, on ne fait plus l'amour, qu'il n'y a plus la passion, en fait, finalement, c'est mieux de passer la soirée sur le canapé parce que pff, trop la flemme, là. Mais allez où, cette passion du début, on l'a perdue, ça ne sera plus jamais le cas. Et en fait, non, ça peut revenir. Ça demande des efforts, ça demande à mettre des choses en place. Est-ce que les deux sont motivés pour mettre des choses en place ? Ça, c'est après une autre question. Mais il y a des choses possibles à faire. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est... Il faut... Parce que des couples vont dire, bah non, c'est foutu. Et donc, on se sépare si c'est basé que sur la sexualité, évidemment. Alors qu'il y a des choses, il y a des choses possibles. En fait, c'est ça, encore une fois. Est-ce qu'on peut être flexible et du coup, avoir... un champ des possibles, et pareil pour la masturbation aussi, là je fais une transition masturbation, mais des fois peut-être on va se masturber d'une seule manière et puis bah, ça va être une manière qui va être très difficile à reproduire quand on est avec un ou une partenaire. Et donc c'est là aussi c'est important en masturbation, si vous avez envie de vous masturber évidemment, de venir stimuler de différentes manières, de venir peut-être si vous avez l'habitude d'utiliser juste un sextoys, alors de pouvoir quand même implémenter d'autres manières de vous masturber, avec peut-être d'autres sextoys, d'autres stimuli, mais aussi avec vos mains, ou peu importe. Parce que ça va être plus facile, encore une fois, parce que vous allez avoir cette flexibilité, tout ce répertoire finalement, ouais, j'appelle un peu ça ce catalogue de répertoire sensoriel, vous allez l'avoir, pour pouvoir le reproduire après dans votre vie de couple, quoi. Ou même, imaginons, si vous avez l'habitude d'utiliser des sextoys, et puis je sais pas, il n'y a plus de sextoys, bah mince, qu'est-ce que vous faites, quoi ? Voilà. Donc du coup, bah, faut faire avec, avec ce qu'on a, mais quand on a été habitué à une chose, on a des fois du mal à explorer autre chose et on va tout de suite se dire, bah non, ça ne fonctionne pas pour moi, bah non, je ne ressens rien, je suis cassée. Et ça, on le voit beaucoup aussi en séance.
Surtout que là, moi, je vois vraiment un phénomène, c'est le womanizer, vraiment à changer ma pratique de l'obstétrique, enfin de la gynécologie, quoi.
C'est... Ah, dans quel sens alors
ben, c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un élément absolument clé. Et presque, pas toujours là, mais vraiment très souvent là. Et les femmes me disent, putain, je n'arrive plus à m'en passer.
Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, en séance après, on a... Pareil, en fait, ça vient... Moi, je challenge ça, je nuance, parce que du coup, encore une fois, je ne peux plus m'en passer, donc je n'utilise que ça. Et donc, en fait, je me retrouve quand même bloquée. Et donc, en séance, nous, après, on doit réparer, entre guillemets, ce que le womanizer fait. Donc bref, en fait, c'est pas ni bien, ni bien, ni mauvais. C'est encore la variété, encore une fois. Pour pas être dépendant, on va dire, d'une seule forme de stimulation. Et parce qu'un womanizer ne remplace pas, n'est pas comparable à une main, n'est pas comparable aux mains du ou de la partenaire ou au pénis. Donc si on s'habitue à une forme de stimulation, après on a du mal à accueillir d'autres stimulations. Et donc là, on peut faire la transition sur le slow sex.
Exactement. Ça, c'est le truc de Camille. Donc, elle va vous parler de slow sex.
Bon, le slow sex, est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez pleine conscience, slow sex ? Qui en a déjà entendu parler ? Qui sait ce que c'est ? Ouais ? Ok. Ouais. Alors, le slow sex, en fait, c'est... Il y a plusieurs définitions. Mais en fait, je vais dire, slow sex, c'est ralentir pour mieux ressentir. Le slow sex, c'est être dans le moment présent et être à l'écoute de ses sensations corporelles. Donc, être dans le moment présent, par exemple, dans une activité sexuelle avec quelqu'un, par exemple, bah, ce n'est pas déjà penser à l'orgasme. Ce n'est pas déjà penser à la liste de courses ou à penser ce qui se passera après ou à se dire « mon orgasme, il doit être comme ça et ça doit aller vite, etc. » Là, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes déjà trop loin. Et c'est normal que du coup, vous ne ressentez pas tout le temps ou pas les sensations qui se passent au moment présent parce que vous ne mettez pas un temps d'arrêt, en fait. Et le slow sex, ça vient remettre de la conscience dans ce que vous faites. Et la conscience, donc ce qu'on appelle la pleine conscience, méditation, toutes ces pratiques-là, ça s'applique en fait dans toutes les étapes, enfin dans toute la vie, quoi. Et c'est intéressant parce qu'il y a des études qui ont été faites justement en pleine conscience en sexologie et qui ont montré plein de bénéfices. Et c'est pour ça que j'utilise moi dans ma pratique parce que je l'ai expérimenté déjà, mais aussi parce que je vois les bénéfices que ça peut apporter. Je vois, par exemple, quand il y a des difficultés à atteindre l'orgasme, quand il y a des douleurs, quand il y a un manque de libido, bah, pleine conscience, pleine conscience, pleine conscience. On va essayer de apporter des outils pour que, dans votre vie, vous puissiez prendre un temps de pause pour être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Et pourquoi c'est important ? Parce que si, par exemple, déjà, imaginons, il y a des douleurs et que vous êtes là, je check out, je suis en train de penser à autre chose, vous vous coupez de vos sensations. Alors, on peut se dire, c'est peut-être bien quand il y a des douleurs de se couper de ces sensations. En même temps, c'est un signal d'alarme, et donc il faut l'écouter, et ça permet de rediriger, de dire, là, ah, stop, là, en fait, peut-être moins de pénétration, ou alors ralenti, ou alors là, c'est le moment de rajouter du lubrifiant. En fait, d'être à l'écoute de ces sensations au moment même, ça permet de réagir. Ou de se dire, bah là, j'étais en train de me dire, bon, j'étais en train de repenser à ma liste des courses, ah tiens, pourquoi ? Ah bah finalement, en fait, là, la manière dont il ou elle me caresse, bah là, je sens pas grand-chose. Alors peut-être que c'est temps de changer peut-être la caresse, ou en fait, j'ai besoin de changer de position, ou peut-être j'ai besoin d'éteindre la lumière, comme ça je suis plus à l'aise d'être dans le moment présent. Mais en fait, c'est un signal, et on a tendance à pas l'écouter parce qu'on est déjà dans un truc, dans une perfection, dans une performance, ou peut-être qu'à la base, on n'en avait pas envie et qu'on le fait, et du coup, que c'est plus simple, une question de survie presque, de se détacher de ces sensations corporelles qui peuvent être inconfortables parce qu'à la base, on n'en avait pas envie. Mais donc, ça permet de revenir vraiment, être aligné avec vous, ce que vous avez envie, vos désirs ou non-envie, et être vraiment à l'écoute de vos sensations, quoi.
Non, mais moi, je découvre avec vous. Hein. Enfin, oui, je pense que c'est effectivement important. Parce qu'il y a le culte de la performance. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont, ok, go, on a 18 minutes, donc on va la jouer efficace, quoi. On va aller chercher l'orgasme à tout prix, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, mais on n'est pas là pour faire autre chose que ça. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant, surtout dans le temps où on est, du postpartum où on est fatigué, je pense que c'est pas mal de se mettre à l'écoute de sa sensation. Ouais.
Et même de l'avoir fait avant, parce que des fois en postpartum, ouais, c'est déjà difficile, si. Mais en fait si vous avez déjà, c'est une pratique, en fait c'est au quotidien.
Oui, mais alors attends, de façon très pratique, ouais, comment on se forme au slow sex, ouais.
On peut faire des retraites de tantra, on peut faire, on peut venir en séance. Oui, en couple, ouais, ça peut être chouette. Ouais,
mais alors là, c'est carrément.
C'est un budget, c'est tout un truc, mais non. Ou aussi en séance, c'est ce qu'on voit, mais parce que ça demande, c'est une pratique. Donc en fait, au début, ce qui est challengeant, et surtout souvent les personnes qui vont avoir du mal à être dans le moment présent, sont les personnes qui ont presque le plus besoin de ça. Mais parce que ça vient challenger, en fait. Parce qu'au début, c'est pas confortable. On va se dire, mais en fait, ok, je ralentis, je fais écoute de mes sensations, mais là, je ressens rien. Il se passe rien. Et en fait, oui, il se passe rien. Enfin, il se passe des choses, mais en fait, le temps qu'on connecte avec la conscience, avec ce qui se passe au niveau corporel, c'est des séances et des séances de pratique. Et trop rapidement, les personnes vont arrêter avant même de voir des résultats, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de résultats. Et souvent, c'est là, quand c'est des femmes qui viennent pour justement « je n'ai pas d'orgasme, je n'ai jamais eu de sensation orgasmique, la masturbation, ça ne me fait rien, j'ai déjà essayé », alors je leur dis « vous avez essayé combien de fois ? Deux, trois fois ou des dizaines et des dizaines de fois ? Ah non, deux, trois fois, puis c'est vraiment pas mon truc, j'ai rien ressenti. Ben, » en fait, ça aurait mérité de persévérer. Et puis, combien de temps vous y avez accordé ? Ah ben, au bout de cinq minutes, j'ai vu que ça ne faisait rien, donc j'ai arrêté. Mais ce n'est pas en 5 minutes, en fait. C'est dans 20, 30 minutes, de prendre le temps pour laisser émerger des choses. Et puis aussi, ça demande un état d'esprit qui soit aussi se détacher de la performance et de la pression. C'est aussi ça, le slow sex. Et on le voit en sexualité, pression, performance. Enfin, qui dit performance dit on se met une pression. C'est un tu de tout. Ça tue le désir, ça crée plein de souffrances dans la relation, ça peut créer des problèmes érectiles aussi, ça crée des douleurs, on se met une pression de malade. Qui dit pression de malade dit qui a envie en fait d'avoir des rapports intimes avec un tel enjeu finalement ? Parce que si je n'ai pas cet orgasme, c'est un échec.
Oui, mais alors moi je voudrais aussi faire l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le slow sex devienne une injonction. Tu vois, et qu'un quickie, ça peut être super bon aussi.
Oui.
Alors un ça, quickie c'est... qui marche, efficace.
Ouais. Alors, slow sex, je dis ralentir pour mieux ressentir. Et donc là, je parlais 20-30 minutes. Mais en fait, slow sex, vous pouvez le faire en 5 minutes aussi, tant que vous êtes dans le moment présent. C'est du slow sex. Mais ça, ça ne va pas être dès la première fois, parce que ça demande de la pratique. Donc au début, en fait, il faut se donner suffisamment de temps pour pouvoir... Mais après, et là peut-être je parle en termes d'années, hein, même de pratique, en cinq minutes, vous allez pouvoir juste être dans le moment présent. Et du coup, je voulais faire la transition aussi sur orgasme, qui est important aussi, parce qu'on revoit cette définition d'orgasme aussi en slow sex. Dans ta vision, toi, de l'orgasme, qu'est-ce que c'est ?
Ah non, pour moi, l'orgasme, je m'en tiens à ma définition médicale de l'orgasme, c'est-à-dire, je suis désolée, hein, c'est pas très romantique, mais c'est l'association de contractions périnéales, enfin vraiment de sensations périnéales, associées avec une syncope dans le cerveau, quoi, grosso modo. Mais, avec Camille, j'ai appris que ce n'était pas que ça. Mais pour moi, cette définition-là, effectivement, où je pense qu'on est quand même nombreux à chercher ça, c'est ce chint.
C'est comme ça, là, c'est un pic.
Voilà, alors voilà. Donc Camille, elle va me dire, voilà, c'est un pic, et on descend bas, et puis après, voilà. Donc après, on recherche ce pic, ce qui est vrai.
Ouais, il y a ce pic, ça vient assez rapidement, parce qu'on veut que ce soit rapide, hop. Et puis ça redescend aussi rapidement et on se sent des fois même vide après. On a envie que c'est pour ça qu'on a envie aussi des fois de sexualité juste après. Ou on se sent pas complètement satisfait ou satisfaite. Et c'est une définition de l'orgasme. Mais orgasme, c'est un S à la fin. C'est-à-dire que dès que vous ressentez du plaisir, c'est déjà des sensations orgasmiques. On a souvent tendance, donc, de par la société, de par ce qu'on entend dans les médias, hein, ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous répète.
Mais c'est parce que ce qu'est la médecine nous a appris. Je crois que la médecine, infuse vraiment le monde. Et donc, ça, c'est la définition médicale.
Ouais. Et en plus, on peut voir donc, plusieurs donc, avec un S. Et puis surtout aussi ce que tu décris, donc, qui est plutôt de manière physiologique, une décharge physiologique, les contractions des muscles du plancher pelvien, des spasmes, etc. Ça, c'est plutôt un orgaste. Donc quelque chose de physiologique, et orgasme, c'est quelque chose qui est plutôt dans le cérébral, on va dire, je me sens complètement des fois dans un autre monde, j'ai cette volupté sexuelle, je me sens pleine ou plein, satisfait, même des jours après le rapport intime. Et dans notre société, quand on est dans cette recherche de performance, dans cette recherche, j'ai besoin de cette dose, Et ben des fois, c'est le lendemain déjà, on pourrait presque y retourner dans, ou pas, parce que justement, on se dit, ben, en fait, finalement, à quoi bon ? Mais quand on est plus dans ce... moins dans ce pic, mais plus dans cette vague, dans cette ondulation, ça peut durer même plusieurs jours après. Et orgasme, donc c'est à l'écoute de toutes ces sensations corporelles. Et quand ça, on en parle en séance, bah des fois, une séance pour certaines femmes, c'est se dire, à la séance d'après, elles reviennent et disent, ah ben en fait, finalement, mais bien sûr que j'ai eu des orgasmes. J'y prêtais juste pas attention parce que j'étais focalisée sur ce que j'ai ressenti une fois comme sensation et je me disais que c'était un orgasme. Et donc, je me disais, il faut absolument que j'ai cette même sensation. Mais en fait, en étant comme ça, en mettant une visière, vous ne pouvez pas écouter ou sentir toutes les autres sensations qui gravitent autour qui sont déjà des orgasmes. Et donc, de repenser la vision de l'orgasme, la vision de la sexualité, souvent, les personnes, je leur dis, mais en fait, vous avez déjà tout sous le coude. Mais est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment pour regarder, pour explorer ? Et donc, ça demande de repenser sa sexualité.
Et oui. Oui, après, il y a quand même, je voulais dire quand même que juste un mot sur le clitoris qui est donc le... Alors du coup, je n'ose plus parler avec toi à côté, mais... le clitoris est quand même l'organe du plaisir, oui, chez la femme. Et donc, en tout cas, oubliez cette histoire. Vous savez, on vous a raconté qu'il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien. Ça, c'est bullshit, si vous ne le savez pas. C'est juste, est-ce que l'orgasme va être allé jusque dans les branches très profondes ? C'est là qu'on va dire c'est un orgasme vaginal. En fait, c'est quand même un orgasme clitoridien qui va... aller sur l'intégralité du clitoris. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes qui disent « Ah non, 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 mais moi, j'ai deux types d'orgasmes. » Et de fait, c'est presque vrai, parce que ça dépend de l'endroit du clitoris. Ça, c'est vrai, quand même.
Ouais, oui, ça, maintenant, on ne parle plus cette dichotomie orgasme clitoridien, orgasme vaginal. Bravo. bonne note. Mais on en parle plus. Et puis, bah, c'est depuis la découverte aussi de vraiment cet organe. Parce que, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on touche souvent, bah, c'est le gland du clitoris, donc la partie externe, qui peut être plus ou moins gros selon les personnes, qui peut être des fois même recouvert par le capuchon du clitoris, qui peut être des fois une zone inconnue, non explorée par soi et ou par les partenaires. Mais il y a aussi des sensations à l'intérieur quand, par exemple, il y a une pénétration, et pas forcément du pénis, mais autre chose, ça vient aussi en interne stimuler le clitoris, qui est effectivement, pour l'instant, on le décrit comme un organe qui ne sert à rien en soi de manière, il ne sert pas à la reproduction, il ne sert pas à nous nourrir. Par contre, il sert à avoir du plaisir.
Et il est enchâssé. Alors là, vous voyez, j'ai dit la suite dans les idées. Il est enchâssé dans les muscles du périnée, ce clitoris. Donc, c'est quand même bien d'avoir un usage extraordinaire de ces muscles périnéaux avec qui on peut faire des choses absolument remarquables. On peut aller même jusqu'à jouer du ping-pong. Comme vous le savez, il y a des ping-pong shows à l'autre bout de la planète. Alors, je ne vous demande pas de faire ça. Mais en tout cas, avoir une bonne maîtrise périnéale, il y a des femmes qui découvrent. Moi, j'ai des femmes qui m'ont dit « Oh, mais Anna, ça a changé ma vie, ce rééducation du périnée. » Donc on voit ça parce que j'essaye de vous convaincre, parce que tout le monde se dit « Oh, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. » En vrai, ça peut être, même sexuellement, une vraie apport. Parce qu'en fait, de maîtriser ses muscles, comme vous emmenez votre clitoris avec dans les muscles. Donc, même, c'est sympa. Et en plus, d'avoir des orgasmes, ça réduit le périnée. Moi, j'aime bien que mes patientes aient beaucoup d'orgasmes, pas comme ça. Alors, je suis désolée, Camille. Doit être horrifiée, mais du coup, elles ont des super périnées.
Et vous pouvez avoir des orgasmes sans partenaire, vous n'êtes pas obligé justement
tout à fait,
de passer par la masturbation. Attends, je voulais rebondir. sur les personnes qui font du ping-pong avec. Et là, je me dis, attends, est-ce que ce n'est pas des personnes qu'on retrouverait en consultation qui auraient des douleurs à la pénétration ? Parce que qui dit « je peux jouer au ping-pong » dit aussi une certaine contraction. Bon, après, surtout un certain...
Attention, oui, il ne faut pas que ce soit une hyper... un bon périnée, pardon, ça je le dis. Hein, c'est pas un périnée qui se contracte tout le temps, c'est un périnée qui sait très bien se contracter et qui sait très bien se faire tout mou. En fait, c'est être le chef de son périnée. Un périnée, ça peut être extraordinaire. Il y a des femmes qui ont des périnées extraordinaires. Et franchement, ça vaut le coup de le rééduquer, hein, vraiment, je vous assure. Enfin, de l'éduquer tout court, parce que finalement, rééduquer, c'est débile comme mot, parce qu'il n'a jamais été éduqué.
Non.
Et c'est vachement bien, hein, en vrai.
Oui, et il faut, peu importe que vous ayez accouché par voie basse ou par voie haute, par césarienne, c'est utile. C'est utile si vous avez des douleurs à la pénétration ou des douleurs tout court, d'aller rééduquer le périnée. Alors bon, c'est pas le bon mot, mais bon, voilà, j'utilise ce mot pour l'instant. Si vous avez des fuites urinaires ou si vous avez moins de sensations aussi, ça peut être intéressant du coup de venir le rééduquer. Et parce qu'en fait, c'est notre socle, quoi. C'est ce qui nous maintient. Ça maintient tous nos organes. Donc en fait, même au-delà de la sexualité, c'est notre santé presque, le périnée.
Oui. Enfin, le périnée, c'est pas de périnée, pas de survie. Hein. Ça assure les fonctions digestives. Non, mais j'exagère pas, je vous assure, vous rigolez. Mais attendez, moi, j'ai un périnée tout mou. Là, tous mes organes qui sont dans mon ventre, ils tombent par terre. C'est chaud, quand même. Hein, j'ai mon rectum dans ma culotte et tout. C'est quand même pas pratique. Donc...
Et d'ailleurs, une kiné me disait, du coup, quand c'est dans ces cas-là, on retrouve beaucoup de personnes dans des homes ou quand ils sont plus âgés, dans des EHPAD ou des choses comme ça, mais parce que des fois, il y a de l'incontinence, finalement.
Exactement.
Mais pas parce qu'ils sont dépendants,
Absolument.
Etc. C'est juste à cause de ça, alors que ça se répare, ça se travaille. Mais il n'y a pas cette information-là.
Et le périnée, c'est comme un capital. Ça, moi, je dis toujours, c'est ma grande théorie. C'est, vous avez 1000 euros, c'est votre périnée. Et chez les hommes, ça marche pareil. Si vous perdez 5 euros, ça va être très facile de récupérer votre capital. Par contre, si vous avez laissé tout se dégrader, vous avez perdu 700 euros de votre capital. Après, pour aller revenir à 1000 euros, ça va être chaud. Et ben pour le périnée, c'est pareil. Si vous êtes un peu dégradé, trop facile, en 2 minutes, c'est fait. Par contre, si vous avez laissé pour remonter la pente, bonjour chez vous, il va falloir 32 séances, ça va être l'enfer, et pour nous et pour vous.
Des questions sur la sexualité, le postpartum. Il y avait quand même ça en attendant que vous pensiez à des questions. Souvent aussi en séance, en postpartum, les personnes vont venir parce qu'elles vont se dire, ou le couple hétérosexuel ou homosexuel va se dire, mais en fait, on n'arrive pas à se retrouver. Moi, je n'arrive pas à avoir du désir, à aller vers mon partenaire ou ma partenaire. Et c'est à ce moment-là, généralement, que les personnes viennent consulter. En postpartum, il y a une première phase qui est focus sur bébé, sur le nourrisson, parce que c'est la survie. Donc, toute notre attention est sur ça. Et là, je parle pour les personnes qui ont accouché. Il y a la phase 2, qui est souvent skippée, qui est pour les femmes, qui est de prendre ce temps pour soi. En fait, c'est généralement peut-être quand on reprend le travail ou des activités, ou juste du temps pour soi, des choses qu'on aime, qui nous nourrissent. Et il y a la phase 3 qui est la phase avec la rencontre avec son ou sa partenaire. Et donc on se dit, mince, j'arrive pas à retourner vers mon partenaire ou ma partenaire. Et donc je questionne, je dis, mais est-ce que du coup vous avez du temps pour vous déjà ? Ah bah non. Donc avant même de penser la phase 3, on se concentre en fait sur la phase 2 et comment on peut organiser ça. Parce que en fait, désirer quelqu'un, c'est d'abord aussi se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir bien dans sa sexualité. Et ça, des fois, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Donc déjà, arriver à se reconnecter à soi, à son corps, qui a changé aussi en postpartum, aux sensations qui ont peut-être changé. Donc déjà, être bien avec ça. Et ça peut se faire aussi un peu en parallèle, évidemment, avec le ou la partenaire. Mais déjà, ça, c'est important avant de penser autre chose. Et ça, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant cette information-là, mais aussi que les partenaires puissent venir en séance, d'avoir ces informations-là, parce que les études montrent aussi que dans les couples où il y a une répartition des tâches qui est juste, il y a une meilleure satisfaction sexuelle. Parce que s'il y a une meilleure répartition des tâches, la personne, elle a généralement la femme, un petit peu moins fatiguée, on a l'impression qu'on fait équipe, parce qu'on partage les choses ensemble, et quand on a le sentiment de faire équipe, on se sent connecté à l'autre, et donc quand on se sent connecté à l'autre, c'est un peu plus facile d'être dans l'intimité. Donc ça, c'est important aussi de savoir, et c'est aussi important de savoir pour les partenaires que votre partenaire, là, votre partenaire femme, elle a besoin de temps pour elle aussi, donc qu'est-ce que vous mettez en place pour lui dégager du temps pour elle, si vous souhaitez plus tard être dans de l'intimité. Alors, c'est pas pour dire que si vous mettez cette phase 2, ça y est, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir de la sexualité. Mais en tout cas, c'est important de le savoir.
Des questions ?
Du coup, c'est pas tellement une question, c'est plus pour rebondir sur ce que vous avez dit. Je trouve ça hyper intéressant l'explication là sur l'orgasme, parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on met énormément de pression au final, d'autant plus ces dernières années avec tout ce qui est clitoris, etc., dont on parle vachement plus. Alors oui, c'est bien parce que du coup, ces messieurs ou ces dames s'occupent plus des autres, mais d'un autre côté, ça met aussi, je trouve que ça met vachement de pression sur le partenaire et sur soi-même, parce que quand vous parliez par exemple des grands pics orgasmique alors qu'en fait il peut y avoir plein de vagues. Il y a des gens qui sont très heureux en ayant uniquement des vagues, mais le partenaire en face parfois peut se poser mille et une questions sur est-ce que lui il a bien fait les choses ou elle a bien fait les choses, etc. Et du coup je trouve que toute cette explosion autour du clitoris et du plaisir féminin, parfois elle n'a pas eu que du bon, parce que même les gens bien intentionnés au final se font, enfin du coup c'est des gens qui sont bien intentionnés se font des coups de flip tout seuls et ça fait mouliner. Est-ce qu'au final, ça aussi, ça n'a pas un impact sur la libido parce que tu te dis que tu n'es pas forcément au niveau pour l'autre, donc tu flippes, donc tu y vas moins. Donc déjà, il y avait cet aspect-là. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que vous avez dit en première phase, Camille. C'est à un moment, vous avez parlé donc, d'un dysfonctionnement dans le couple. Et du coup, moi, ça m'interpelle un peu parce que est-ce que ça veut dire que forcément, s'il y a une disparité dans la libido des deux partenaires, est-ce que ça veut dire que forcément c'est un dysfonctionnement ou est-ce que simplement on peut se dire que c'est comme ça et qu'il faut, faut l'accepter autant qu'on accepte que le partenaire a des habitudes qu'on n'a pas, quoi.
Ouais, j'ai peut-être dit dysfonctionnement, mais je voulais dire disparité, si je, okay. J'ai dit ça. Alors, on va essayer de reprendre. Ouais, pour une majorité de couples, en début de couple, c'est assez facile, on se rejoint assez facilement sur la libido. Souvent, les gens vont dire c'était fluide, c'était spontané, on avait du désir et on n'avait même pas besoin d'y réfléchir. Et puis, des fois, quelques mois après, quelques années après, bah là, en fait, finalement, il ou elle a plus envie, on a du mal à se synchroniser ou alors c'est plus du tout spontané et qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et il y a cette croyance. C'est une croyance aussi, pareil, à déconstruire que ça doit être spontané. Et c'est facile d'avoir de la spontanéité au début. Et encore, je challenge ça, parce que je dis, est-ce que vraiment au début, c'était spontané ? Quand vous ne viviez pas ensemble, est-ce que vous ne disiez pas, OK, on se retrouve jeudi soir ? Est-ce que ce n'était pas planifié ? Est-ce que ce n'était pas anticipé ? Est-ce que vous n'étiez pas à vous préparer mentalement, physiquement pour ce rendez-vous ? Donc en fait, la planification, elle est là tout le temps. Sauf que les couples ont du mal à l'intégrer et à se dire « Mais non, mais si on s'aime, ça devrait juste être naturel et spontané, peut-être qu'on ne s'aime plus finalement. » Non. Donc d'avoir ces informations-là, c'est important pour se dire que finalement, on est normaux, on est normal, et de se dire qu'en en fait, on peut repenser aussi notre intimité et que planifier, mettre des choses en place, ça ne veut pas dire que notre couple va mal, ça veut juste dire qu'on en prend soin. Et c'est là la différence. Après, la première chose que tu as partagée, c'était quoi déjà ? Je voulais rebondir. Il y a autant d'orgasmes que d'expériences, que de personnes. C'est vrai que les réseaux... Et c'est ça aussi tout l'enjeu. C'est aussi, en tant que sexologue, et pareil, j'ai un compte Instagram, mais c'est, OK, est-ce que là, je ne suis pas en train de créer une nouvelle injonction ? Et c'est vrai qu'avec le boom des sextoys, et pareil à dire, voilà, par exemple, voilà, le womanizer, stimulateur clitoridien. Et donc, du coup, maintenant, les personnes qui n'ont pas de sextoys se disent qu'elles ne sont pas normales parce qu'elles se disent que tout le monde a un sextoys maintenant et qu'elles aussi, elles devraient essayer le womanizer et ou peut-être qu'elles l'ont essayé, mais ça n'a rien fait, donc elles ne sont pas normales. Donc, c'est encore cette comparaison et de se dire que ce qu'on voit chez les voisins, voisines, ça, on doit se l'approprier. Non, vous êtes différentes. C'est votre propre norme. Plus vous allez arriver à vous détacher de ça, déjà, mieux ça sera, parce qu'encore une fois, du coup, on se met une pression, on se dit qu'on n'est pas bien, et même le ou la partenaire se dit, bah, moi, je vois partout qu'en fait, il faudrait que je stimule le clitoris, et là, tout de suite, tu aurais du plaisir. Mais en fait, c'est bien plus nuancé que ça aussi, et la question de, bah, est-ce que je suis un bon amant, etc., bah, là, ça vient jouer sur l'ego, et pareil, c'est pour ça que c'est bien aussi de venir en séance, parce que ça ne dépend pas que de vous, et là je dis vous, mais quand vous êtes dans un couple, ça ne dépend pas que de vous, mais ça dépend en fait aussi de la dynamique et de ce qui se passe dans le couple. Et pareil, du coup, là je rejoins ce que je disais quand les femmes viennent en consultation parce que c'est elles qui ont un problème. Je dis, bah, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis voilà, on fait une petite liste de ce qu'elles ont envie. Et donc je dis, bah oui, là, ce point-là, oui, on peut le travailler ensemble, en individuel, ça aussi, ça aussi. Ça, bah non, ça, sachez qu'il y a une limite. Ça, en fait, ça ne repose pas tout sur votre épaule. Vous n'êtes pas toute seule dans le couple. Et donc, bah, ça demande à ce que le partenaire ou la partenaire vienne en séance aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand le ou la partenaire dit, bah non, moi, je ne veux pas venir en séance, ou alors non, moi, je n'ai pas de problème, ou alors non, moi, je ne viendrai pas voir un sexologue. Bah là, nous, on est bloqués dans tous les cas, et la personne est aussi bloquée. Mais il y a des choses qui peuvent être faites en individuel, en sachant que des fois, il y a des limites et qu'il y a des choses à faire, en fait, aussi en couple.
Oui, non, mais les disparités dans le couple, c'est quand même, ça peut ne pas poser problème, mais ça peut aussi poser des problèmes. Hein. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup et de femmes et d'hommes. Ça va 5 minutes, mais ça va pas 7. Et donc, moi, je pense que là, quand même, il faut faire entrer un tiers dans la relation. Enfin, me semble-t-il. Quand je dis un tiers, je ne parle pas d'un nouveau partenaire. À chaque fois, on me dit ça. Fois. Mais putain, Les gens, quand même, ont l'esprit mal tourné. Bon.
Ça peut être excitant aussi. Hein, c'est
vrai. Mais en tout cas, faire entrer un tiers, je veux dire, faire entrer soit un sexologue, soit une sage-femme, si on n'est pas à l'aise avec le sexologue, soit n'importe qui ou presque, mais faire entrer un tiers, quoi. Mais il faut quand même avoir en tête que les disparités dans la sexualité, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi pas bien se passer. Mm-hmm. C'est chiant.
Et surtout quand il y a des extrêmes.
Voilà.
Quand il y a des gros extrêmes ou que quand il y a cette rigidité, finalement, une personne qui reste sur sa position, bah pareil, moi je dis, j'ai pas de baguette magique, faut déjà qu'il y ait de la motivation. Si vous venez en séance, il faut que vous soyez motivé à remettre en question des choses, à peut-être penser différemment, et ça prendra le temps que ça prendra, hein, c'est pas en un claquement de doigts. Mais si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas prêt à y mettre du vôtre, bah moi je peux rien faire dans tous les cas. Je peux vous proposer tous les outils, ça ne changera rien. Et donc c'est pour ça que je disais, il y a une limite aussi. Et des fois, c'est mais qu'est-ce que je fais si mon partenaire il veut vraiment pas et qu'il veut pas se remettre en question ? Ben voilà, je reste comme ça, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Il y a rien à faire en fait. Donc après, c'est qu'est-ce que je fais de cette situation ? Est-ce que je reste comme ça et je serai quand même bien comme ça, ou est-ce que je serai pas bien comme ça ? Et donc.
Mais je pense quand il y a vraiment des grosses disparités comme ça avant d'avoir un enfant, oui. Je pense que c'est quand même bien. D'aller explorer ça avec un tiers pour être sûr qu'on a envie de s'engager là maintenant tout de suite avec quelqu'un sur une certaine durée. Hein. Enfin,
on revient à la même chose. En
voilà,
fait,
exactement. C'est que c'est une question qu'il faut se poser avant. En fait, c'est vrai que les gens, maintenant dans la parentalité, mais ça c'est un vrai sujet de société, c'est que les gens font des enfants, alors des fois sans réfléchir du tout, en n'imaginant pas qu'ils sont en train de créer un business, une business unit avec un enfant, parce que c'est vraiment créer une entreprise familiale. Ils n'ont pas cette notion-là, qu'il y a plein d'aspects chiants et d'aspects pas marrants, et qu'en fait, on n'a pas envie de s'associer avec n'importe qui, et qu'ils se retrouvent, en fait, le lendemain de l'accouchement, putain, mais pourquoi je suis avec ce mec, quoi ? Moi, j'ai beaucoup de patientes comme ça, qui se réveillent le matin et disent oh, « Putain, j'ai fait une connerie, quoi. » Et ça, c'est vraiment, vraiment fréquent.
Parce que,
vraiment fréquent. Ouais,
parce qu'encore une fois, ça n'a pas été conscientisé aussi dans la relation, donc d'où l'enjeu aussi, et c'est jamais trop tard hein, pour le faire. Et des fois, bah, l'accouchement, enfin le postpartum, c'est un déclic aussi. Mais c'est important de quelle est notre vision du couple. Pour le postpartum, bah, comment on va s'organiser, qui va s'occuper de l'enfant, de quelle manière on se répartit pour que ça semble juste. Mais il y a plein de questions comme ça qui ne sont pas abordées par les couples. Et ça c'est quand même choquant. Donc,
c'est pour ça que c'est aussi dur dans le couple après l'accouchement. Parce qu'en fait, il y a plein de questions. Nous, avec mon mec, mais bon, je ne devrais pas raconter ça, mais je vous le raconte, c'est qu'on s'est engueulés comme des chiffonniers, parce que j'étais sage-femme. Donc j'ai été confrontée à des situations, le couple qui n'a pas d'enfant, le couple qui a un enfant malade, le couple qui a ceci, cela. Et j'ai dit à mon mec, j'ai fait une liste de toutes les situations difficiles, et je lui ai dit, maintenant, on va débattre de tout. Il m'a dit, putain, t'es vraiment... Mais il a été OK. Et donc, on est infertile, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on s'est battu, mais comme des chiffonniers, se battre à en venir aux mains. Moi, j'avais envie de l'étrangler. Je me rappelle d'une fois sur un pont de Paris, j'avais envie de le... Mais je pense que c'était très bien d'avoir cette phase de... On va essayer de voir si on, quand même on est un peu raccord, genre. Ouais, savoir si... et sur, par exemple, sur l'infertilité, on n'était pas du tout d'accord. Mais on s'est dit, on n'est pas d'accord, mais on tente quand même l'aventure ensemble. Mais on n'était pas du tout d'accord. Pas du tout, du tout. Voilà.
Et donc, le lien avec la sexualité aussi, c'est de se dire, est-ce qu'on a les informations en postpartum aussi ? Parce que des fois aussi, il y a cette croyance, et là, pour les hommes, se dire, bon, pendant la grossesse, c'est un peu, OK, c'est une bulle, voilà, il se passe ou il ne se passe rien, voilà. Mais en postpartum, bon, bah, allez, c'est bon, ça revient à la normale. Non, il faut pouvoir avoir des informations, et plus les couples sont informés, mieux ça se passe dans leur intimité, plus on peut challenger aussi et apporter cette flexibilité-là, mieux ça se passe. Et donc de dire aussi les choses, dire bah voilà, j'ai lu ça sur le postpartum, la sexualité, il peut se passer ça, comment on affronte ça ensemble ? Si jamais ça va pas, qui sont les personnes ressources ? Est-ce que tu es d'accord pour aller consulter avec moi si j'ai ce souci ou si on a ce souci ? Et là aussi ça veut dire aussi quelque chose, est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un avec qui on fait équipe finalement ?
En fait, merci pour cet échange et ça me fait penser à plein de choses. Je me disais, quand on parlait tout à l'heure, l'amour, c'est le désir, donc cette association qui peut être faite. Et en fait, le désir, oui, mais le désir, est-ce que c'est la pénétration ? Bah, pas forcément. Enfin, il y a plein de choses entre... est-ce que forcément sexualité égale pénétration ? Bah non. Et en fait, c'est des choses dont... Peut-être qu'on nous a inculqué ça et c'est des choses avec lesquelles on a grandi et qui peuvent créer des complexes, des comparaisons, enfin, des moments plus difficiles à passer. Et en fait, en voyant cette conférence, en voyant tout ça, moi, je me dis toujours, mais putain, merde, à quel moment on a merdé ? Et quand est-ce qu'il faut qu'on informe, qu'on prévienne plutôt que guérir ? Et comment, en fait, demain, on pourrait se dire ces informations ? Enfin, je me dis, elles sont dans la salle, elles sont là sur les réseaux. Et ma plus grande frustration, c'est de me dire, mais il y a des femmes ou des couples qui vont traverser, en fait, cette sexualité en postpartum et qui vont se dire, mais putain, c'est chaud, quoi. Et qui vont se dire, mais je suis pas normale, pourquoi je souffre, hein, pourquoi moi, en fait, ça revient pas. Et je me dis, mais... Et puis même quand tu parlais de la grossesse, de bah tiens, ma sexualité quand je suis enceinte, est-ce que c'est normal que j'ai moins de désir ? Comment on fait pour se dire, mais demain, au même titre que la prise de conscience de son clitoris, de son périnée, de toutes ces choses-là, en fait, mieux se connaître, mieux éduquer sur ces sujets-là, comment on pourrait faire en sorte que tout le monde soit au courant ? C'est hyper idyllique comme truc, mais de se dire que plus de gens soient sensibilisés sur ces sujets tellement importants et tellement finalement animaux, enfin, c'est la façon dont on fonctionne.
Pleine d'espoir, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit je vais passer ma vie à servir les sages-femmes et les femmes et les familles des femmes. J'ai pris cet engagement, en prêtant serment et tout, c'était sérieux. On revient de l'âge de pierre. Hein. Enfin, il y a 10 ans, c'était... Moi, je parlais, je me rappelle, j'écrivais des textes, je parlais dans le désert, personne ne m'écoutait. Donc il y a quand même... Il faut dire ce qui s'est passé de bien. Le postpartum, c'était un mot qui n'existait même pas. Moi, j'en parlais, de quoi tu parles, toi ? Et donc, voilà. Donc, moi, je suis quand même assez optimiste sur le fait que quand même l'information circule vachement plus. Bien sûr, il y a bien sûr des formes, mais le problème, c'est qu'il y a une démission des pouvoirs publics qui ont, disent-ils, plus d'argent. Et du coup, voilà, ça, c'est la merde, parce que du coup, on n'a plus d'appui de relais institutionnels, mais donc ça, c'est la merde. Mais en soi, je trouve que la parole circule mieux quand même.
Ouais, quand même,
moi, je suis optimiste quand même.
Ouais, moi aussi, je suis optimiste, ça a quand même bien changé. C'est vrai que la sexualité, bon, il y a un plein boom, on en parle de plus en plus, et ça peut avoir ses dérives et des nouveaux complexes, nouvelles injonctions, mais quand même, il y a pas mal d'éducation sexuelle et des choses qualitatives qui se passent, et même rien que là, le talk ce soir. Et postpartum, on en parle aussi de plus en plus ces dernières années, et donc maintenant, bah voilà, c'est vraiment l'alliance. Moi, mes deux passions, c'était la sexualité et la périnatalité. Je me suis dit, bah, sexo-périnatalité, regroupons toutes ces informations-là, parce que ça n'existe pas, ou peu. Je me suis dit, mais à quel moment, en fait, c'est judicieux de donner cette information-là ? Est-ce que c'est en postpartum ? Alors, bah, quand je questionnais, les sages-femmes me disaient, bah non, pas vraiment à ce moment-là, il y a tout un chamboulement, on n'a pas trop la tête à ça. Ok, alors pendant la grossesse ? Ah non, mais la grossesse, il y a déjà une tonne d'informations, et puis c'est un petit peu, on est un petit peu dans sa bulle, etc. Bon, bah alors, avant, c'est ce qui semble le mieux, avant la grossesse. Sauf qu'avant la grossesse, les gens vont dire, bah non, ça ne me concerne pas. Donc, à quel moment on peut diffuser cette information-là ? Et que les gens puissent l'entendre aussi, ça reste encore un point d'interrogation. Mais pareil, je reste optimiste. Voilà, il y a la conférence ce soir, à travers des livres, des bouquins, bah, comme le tien, comme le mien, comme plein de podcasts qui existent aussi à ce sujet-là, mais mélangés un petit peu en écoutant des podcasts sur la parentalité et puis des podcasts sur la sexualité, ou des ressources, hein, pas que des podcasts. Voilà.
Alors, là, alors, malheureusement, en fait, il y a des sages-femmes qui le font, beaucoup, mais le problème, c'est que c'est gratuit. Donc, ça veut dire que c'est des sages-femmes qui font... Alors, déjà que les sages-femmes font beaucoup de bénévolat, mais là, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, en fait, c'est pas que c'est nul, c'est que ça dépend vachement des écoles.
Mais peut-être pas à l'école, elles sont plus informées, peut-être par les réseaux, ce qu'ils voient... Ok, à l'école, quand même. Consentement un peu plus...
Oui, et puis maintenant, il y a des bouquins. Moi, j'ai écrit un bouquin tout sur les règles. Là, je vais paraître tout sur les kikis et les zézettes pour les enfants de 5 à 17 ans, quoi, grosso modo. Et quand même, et j'ai vu les effets très concrets. C'est-à-dire les jeunes filles qui consultaient, qui ont compris qu'en fait, on pouvait aller voir une sage-femme sans avoir d'examen gynéco, juste pour lui parler de ses règles, de sa vie affective et sexuelle, etc. Donc, moi, je ne désespère pas. Mais après, je suis très optimiste de nature. Je vois toujours le verre à moitié plein, donc... C'est peut-être un défaut aussi, mais j'ai tendance à dire qu'on va plutôt dans le bon sens que vers dans le mauvais sens, à moins qu'on se prenne une guerre mondiale, ce qui est tout à fait possible.
J'adore.
Mais c'est vrai.
Et par rapport aux cours, dépend, les cours d'éducation sexuelle, ça dépend des budgets, donc ça dépend de l'État, si on veut être dans les écoles, voilà, ça dépend de ça. Donc moi, l'information, c'est transmise sur les réseaux, parce que les gens viennent se renseigner quand même. Si on ne leur transmet pas l'information, ils vont aller le chercher quand même quelque part. Donc autant que ce soit de l'information qualitative, mais que du coup, ce soit mainstream. Et pour ça, c'est encore très dur, parce que même les réseaux censurent beaucoup. Donc oui, par les écoles, ça serait chouette que dans les écoles, on puisse parler aussi autre chose que la contraception, ce qui est important, mais qu'on puisse parler aussi de plaisir, de consentement, qui est peut-être déjà la base, consentement, exploration du corps, juste expliquer aussi à quoi ressemble une vulve aussi, de nommer les choses, et ça serait bien, mais ça demande un budget, ouais.
Là, je fais un joker sur les études médicales. Je ne dirai pas ce qui se passe. Donc, donc c'est un joker.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres, dans d'autres pays, ils font de l'éducation sexuelle déjà dès 5 ans. Parce qu'ils ont tout compris. Absolument. Ils ont compris qu'en fait, c'est quand ils sont petits et qu'on intègre le mieux. Et juste sur les bases du consentement. Déjà, si on peut apprendre ça, c'est déjà énormément. C'est déjà énorme. Énormément. Il est tard. Les questions finales, lâchez-vous.
Sur l'idée que, encore une croyance, du spontané, le faux spontané, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Enfin, comment ça se prépare? Comment on s'organise?
Bah, moi, souvent, je dis, OK, vous attendez du spontané, donc qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Si on attend du spontané et que ça tombe dessus, généralement, il ne se passe rien ou c'est... tous les soirs de pleine lune, mais alors, enfin bref. Donc déjà, c'est de déconstruire ça, parce que même si je dis ça et qu'on se dit non, mais quand même, faut du spontané, etc. Bref, donc déjà déconstruire ça. Et puis, c'est de se dire que c'est pas parce qu'il y a du planifié qu'il n'y a plus de spontané. Au contraire, le planifié va venir renforcer le spontané. Et donc, des fois, le fait de planifier, donc de mettre des choses en place, ça donne déjà une intention qui est on prend soin de notre relation, on fait des efforts pour, parce que oui, ça demande des efforts. Et que non, l'amour ne suffit pas et que ça ne doit pas être juste on s'aime, on s'est marié ou on a un enfant et donc c'est bon, relax. Non, si on veut entretenir son couple, oui, ça demande des efforts. Et de planifier le fait de mettre ça en place et de l'intégrer dans sa relation, ça va devenir de plus en plus naturel, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment naturel, mais ça va devenir de plus en plus simple parce que ça va être juste être fluide, quelque chose qu'on a intégré. Et donc après, on n'y pense même plus. On y pense, mais je veux dire, ça demande moins d'efforts. Donc voilà, le spontané, ce qui est planifié ne remplace pas le spontané. Et si on attend du spontané, il ne se passe rien. Et quand on planifie, on peut faire revenir du spontané aussi. Si par exemple, concrètement, on se dit tous les lundis matin, quand les enfants sont à la crèche ou à l'école, on a une heure pour nous. On a une heure pour nous. Et c'est un moment pour notre intimité. Et là, quand je dis intimité, vous y mettez ce que vous voulez. Je ne parle pas forcément de pénétration. Donc on a ça. Eh bien, ça ne veut pas dire que le jeudi, il n'y aura peut-être pas quelque chose, une tendresse, ou il n'y aura peut-être pas, par exemple, du sexe oral. Ou, voilà, ça n'enlève pas du spontané. Et au contraire, en plus, comme on a ça aussi qui est intégré, on va dire, dans la relation, ça vient nourrir ce lien érotique, je l'appelle comme ça vraiment, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, c'est intéressant peut-être de se poser la question si vous êtes en couple. Qu'est-ce qu'on a mis en place entre la dernière fois qu'on a fait l'amour et la fois d'après? Parce que généralement, on pense qu'il n'y a rien à faire, on attend que ça passe et puis il faudrait mettre un petit bouton on-off. Pour certaines personnes, ça peut marcher. Et là, ça peut marcher. Et là, je fais des généralités généralement pour les hommes. Et généralement, pour les femmes, c'est plus difficile parce qu'il n'y a rien qui a été entretenu entre la dernière fois qu'elles ont fait l'amour avec leur partenaire et la fois d'après. Et comme si, soudainement, il fallait qu'elles soient dans de la sexualité alors qu'elles se sentent déconnectées de leur partenaire parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place. Donc, c'est de venir entretenir ce lien érotique. Et comment on l'entretient? En mettant des efforts, en passant du temps ensemble, des moments qui nourrissent le couple et la relation.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis voilà.
Si vous avez des questions, quoi que ce soit, ouais. Comment est-ce que toi, on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te contacter?
Alors, c'est pas facile parce que j'ai personne qui gère ni mon téléphone, ni mon compte Instagram. Et donc malheureusement, je réponds quand je peux, mais j'arrive pas toujours à répondre, en vrai. Donc je vous le dis, je suis désolée. Je n'ai pas encore recruté, il me faut un directeur de cabinet, mais pour l'instant, je ne l'ai pas.
Et moi, je peux vous rediriger vers mes ressources. Et du coup, tu peux parler aussi de tes livres via mon livre « Réinventer sa vie intime après bébé ». Mais j'ai aussi un podcast, donc des contenus gratuits. J'ai un podcast et un compte Instagram qui sont tous les deux du même nom, « Camille parle sexe ». Camille, mon prénom, Camille parle sexe. Et puis, vous pouvez me contacter en DM, mais pareil, des fois, je peux mettre du temps à répondre. Ou en tout cas, je ne suis pas par écrit, je suis plutôt quelqu'un de l'oral. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a les podcasts et il y a le compte Instagram pour des informations.
J'ai deux podcasts qui s'appellent Sage Meuf et Tout sur Elle, où vous avez plein d'informations qui sont gratuites dessus. Et il y a 11 livres sur des sujets variés.
11 livres, quoi.
Oui, 11 livres maintenant.
Ouais, montre ton dernier là, qui est tout beau en plus.
Le
j'adore.
Dernier qui est très, qui est un très bel ouvrage parce que c'est une très belle maison d'édition qui l'a publié, qui s'appelle l'Iconoclaste, avec des très belles photos d'une photographe belge absolument magnifique, où il y a plein d'infos vraiment sur le sur la grossesse et les suites.
Merci, merci à vous d'être venu.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'écoutez en ce moment, c'est que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, ça je l'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux ou encore mieux, de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast. Si vous avez des suggestions d'invités ou de thématiques, n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe, où je partage également des informations. Si cet épisode vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à peut-être des patientes, des clients ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À tout bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.